répliques, la France, l'orthographe et l'école, avec Anne-Sophie Lautac et Michel Dussault. Le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir, au début de cette année, que les rectifications orthographiques recommandées par le Conseil supérieur de la langue française et publiées par le journal officiel le 6 décembre 1990 allaient être mises en application et serviraient de référence dès la prochaine rentrée scolaire pour l'enseignement de l'orthographe dans les collèges. Cette décision a provoqué aussitôt connue une polémique très vive. Elle a même enflammé l'opinion. Des politiques, des enseignants, des anonymes ont multiplié les messages d'indignation et beaucoup se sont ralliés sous le hashtag « Je suis circonflexe ». Ce qui a suscité en retour, notamment sur les antennes du service public, les commentaires moqueurs des éditorialistes et des professionnels du Quolibet. Je pense pour ma part que la langue, son visage, son histoire, sa transmission sont des sujets très sérieux. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Michel Dussault, qui préside le Conseil supérieur des programmes, et Anne-Sophie Lautac, qui est professeure de géopolitique en classe préparatoire. Et d'abord une question de fait. Quels sont les principaux points de la réforme promise, Michel Dussault?
Alors d'abord, rappelons que cette question de l'orthographe est une vieille passion française. Il y a eu plus de 17, je crois, réformes ou révisions de l'orthographe depuis la stabilisation qui est celle du premier dictionnaire de l'Académie française. Et c'est une vieille passion française à la fois, sans doute, parce que cela renvoie à une certaine conception de la langue, sur laquelle nous reviendrons, mais aussi parce que l'orthographe du français est particulièrement complexe, en raison même de la constitution historique du français et du fait que ça n'est pas une langue romane tout à fait comme les autres, notamment parce que elle ne possède pas ce que certains linguistes appellent une orthographe transparente, hein, comme l'italien ou l'espagnol, mais une orthographe qui est liée aussi à son histoire franque. Tout ça pour dire que les questions qui nous occupent aujourd'hui ne sont pas, à proprement parler, simplement des questions d'actualité, mais des vraies questions de culture et d'histoire de la culture. Et en ce sens, elles sont tout à fait intéressantes. Et moi, ça ne m'étonne pas, dans une certaine mesure, que cette question enflamme, ou en tout cas préoccupe les locuteurs. Deuxième remarque, avant de donner quelques éléments de précision sur cette révision. Cette révision orthographique, qui n'est pas une réforme, pour une raison qu'on expliquera sans doute ensuite, cette révision orthographique était déjà prônée par les programmes depuis 2008. Explicitement dans les programmes de 2008, les programmes qui avaient été édités à l'époque où Xavier Darcos était ministre de l'Éducation nationale, ces programmes faisaient référence à cette orthographe révisée. Le Conseil supérieur des programmes, qui n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, puisque le Conseil supérieur des programmes est une institution indépendante qui est placée sous l'autorité de la ministre, mais qui ne représente pas l'institution ministérielle et qui n'a surtout pas de pouvoir de commandement sur les enseignants et sur l'ensemble de l'institution académique. Le Conseil supérieur des programmes a rappelé l'existence de cette révision et a, conformément à ce qui s'était dit en 2008, précisé que l'apprentissage de l'orthographe était cadré par cette révision de 90, ce qui veut dire, parce que c'est quelque chose d'important à rappeler, que cette révision de 90 ne présente pas d'ailleurs de caractère obligatoire, hein, ce qui est aussi peut-être d'ailleurs un sujet de discussion.
Oui,
puisque
on va en parler. Puisque ça peut créer une complexité supplémentaire.
Voilà. On peut ou l'on peut ne pas appliquer ces révisions. Et ça reste la règle, puisque c'est ce qui avait été décidé en 1990, après des échanges sur lesquels il n'est peut-être pas besoin de revenir maintenant, mais sur lesquels on pourrait revenir si vous le souhaitez. Alors, pour revenir à cette révision elle-même, et par réforme, pourquoi par réforme? Parce qu'on ne touche pas au cœur de l'orthographe pour la langue française, qui serait de toucher à l'orthographe syntaxique. On ne touche très peu à l'orthographe syntaxique ou orthographe grammaticale. On touche en fait essentiellement à la graphie des mots et à certains types de mots très particuliers. Pour aller vite, il y a 2400 mots qui sont concernés. Ce sont surtout un certain nombre de cas qui ont été abordés par cette révision, quelques allègements du circonflexe, mais pas de suppression de l'accent circonflexe, qui est conservé notamment à chaque fois que cet accent circonflexe est décisif pour la compréhension.
Oui, c'est-à-dire qu'il est supprimé sur les lettres I et U.
Voilà.
On dit une boîte sans accent circonflexe, elle brûle.
Voilà.
Sans accent circonflexe, s'il vous plaît, sans accent circonflexe. En revanche, pour le jeûne, on garde l'accent circonflexe
la tâche,
pour le distinguer de jeûne.
Tâche, etc., voilà. etc. Donc à chaque fois qu'il y a une nécessité de compréhension, l'accent circonflexe est maintenu et c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait important. Le deuxième groupe de mots qui sont concernés pour aller très vite, ce sont les mots à trait d'union, hein, où là on a une sorte d'harmonisation d'un système qui était considéré par les linguistes du Conseil national de langue française comme erratique, puisqu'il ne s'appliquait pas de la même manière selon l'origine étymologique des mots. Donc on harmonise un peu cela. Et pour aller très vite et pour que nous puissions ensuite engager...
Et on l'harmonise en agglutinant,
en
soudant
voilà,
un certain nombre de mots composés. Mais encore une fois, pas tous.
Ce
que rappelle Jacques Drillon dans l'Obs, extra-utérin, par exemple, garde le trait d'union, parce que sinon ça donnerait extra-utérin. On garde le trait d'union pour gréco-romain et on le supprime pour ciné-roman, par exemple.
Voilà, ou pour mille-pattes, etc. Donc, et enfin, il y a un troisième ensemble relativement important de simplification des pluriels des mots composés. Ce qui est d'ailleurs là un peu une incursion dans le domaine de l'orthographe grammaticale, puisque là, on touche au pluriel. Et le pluriel des noms composés était un pluriel extrêmement difficile à comprendre. Et donc là, on harmonise le pluriel des noms composés. C'est-à-dire, vous savez que tous les noms composés ne se mettaient pas en pluriel de façon équivalente, selon la grammaire même de cette composition. Et là, on en fait un pluriel ordinaire. Hein, c'est-à-dire, on rajoute un S systématiquement, ce qui a là très clairement pour objectif, il faut le reconnaître, de simplifier. Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément, si je puis me permettre, le résultat atteint par cette rectification. Parce que cette rectification à la fois simplifie et en même temps ne simplifie pas autant que certains l'auraient voulu. Il y a eu des grands débats en 90. Certains ont estimé qu'on avait été trop peu dans la simplification et trop peu vers, et je terminerai par là, ce que l'on appelle l'orthographe transparente, c'est-à-dire une orthographe qui est, si je puis dire clairement, en adéquation avec le son.
J'ajoute aussi qu'il s'agit de supprimer un certain nombre d'anomalies en harmonisant des séries. Ainsi, on écrira boursouffler avec boursouflure avec deux F sur le modèle de souffler, chariot avec deux R, combatif avec deux T, sans doute sur le modèle de combattant. Et puis, c'est là aussi qu'on apprend la suppression du I de oignon ou du E de douceâtre. Voilà, on a fait un peu le tour.
Des éléments les plus saillants.
Voilà. Alors, Anne-Sophie Le Tac, vous avez, dans un article du Figaro, vigoureusement protesté contre cette réforme, et on pourrait vous objecter qu'elle est faite à la marge, qu'elle concerne peu de mots et qu'elle ne méritait peut-être pas le tollé qu'elle a suscité. Je me fais l'avocat d'une cause qui n'est pas nécessairement la mienne.
Vous avez tout à fait raison, Alain Finkielkraut, et je pense d'ailleurs que le tollé ne porte pas exactement sur l'accent circonflexe. C'est-à-dire que, là je crois qu'on est tout à fait d'accord. Alors bon, je rappelle qu'il a été introduit donc en 1740 en faisant déjà un tollé parce qu'il était moderne. Hein, il permettait de supprimer le S de certains mots. Donc il y avait déjà une querelle des anciens et des modernes très très tôt sur cette, et même une cruelle guerre civile sur ce point. Et comme le souligne un spécialiste de la question, qui s'appelle Bernard Cerquilini, c'est une véritable guerre civile et une cruelle guerre civile qui s'engage en 1990-91 autour de cette question, avec vraiment un aspect rituel et une espèce de conflagration orthographique. Hein, donc c'est ce qui m'intéresse en fait. Alors je souligne tout de suite que je ne suis pas professeur de français.
Oui, je l'ai dit, donc, professeur de géopolitique.
Je ne m'exprime pas en tant que spécialiste, je m'exprime en tant qu'observatrice, d'une part, hein, comme une personne qui aime le langage, qui a adoré l'orthographe, parce que je trouvais que c'était un jeu de construction quand j'étais petite, et c'est comme ça que je l'ai toujours pris. Et aussi comme un professeur de géopolitique qui voit arriver des étudiants en quelque sorte en fin de parcours du secondaire et qui s'est toujours intéressé finalement à ce qui se passait en amont. L'amont me passionne en fait. Bon.
Oui, mais alors, vous dites guerre civile, mais vous prenez parti dans cette guerre civile puisque vous écrivez que vous parlez de l'atroce amputation de l'oignon qui tire les larmes, du nénuphar privé de toute racine grecque et condamné à errer sur l'eau, et vous dites ce qui se joue, c'est un Alzheimer orthographique, car l'orthographe n'est jamais qu'un immense amas de scories venues de l'histoire, sans les lesquelles la langue se réduit à la phonétique ou à un globiche informatique qui élimine la mémoire, pourtant essentielle à l'humanité. Donc il y a quand même un enjeu très fort dans ces petites rectifications que certains pourraient considérer comme mineures.
Alors absolument, et ce que je trouve passionnant dans cette affaire, c'est d'abord que les deux camps sont piégés. Deux camps sont créés immédiatement autour de cette question. Ils sont tous les deux piégés. Alors on a d'un côté la morale de l'effort, la transmission, l'accent circonflexe, et de l'autre côté une espèce de mou ironique qui dit « mais enfin, pourquoi est-ce qu'il s'excite ?» Bon. Et surtout le progrès, l'amélioration permanente, l'adaptation donc à ce qui est en train de se passer. Alors justement, la vraie question, c'est celle de la transmission. Et en fait, la question de la transmission sous-entend qu'il y aurait finalement un emploi incohérent et arbitraire de la langue, et comme le disait très bien Monsieur Lussault, qu'il y aurait finalement la possibilité d'une orthographe transparente. Et cette idée, je la trouve folle. Non du tout que vous la... que je pense que ça soit celle forcément que vous défendiez, mais elle est folle. Pourquoi ? Parce qu'aucune orthographe ne sera jamais transparente, et que justement... admettons que du point de vue de l'Académie française, techniquement, il y a des points à améliorer. N'allons pas chercher le prétexte d'élèves qui ne comprennent pas l'orthographe ou pour qui c'est trop compliqué, parce que on n'apprend pas quelque chose parce que c'est simple ou compliqué. On l'apprend parce que on a envie de l'apprendre et aussi parce que on est environné de structures qui nous aident à apprendre. Donc, je vois l'orthographe comme quelque chose d'arbitraire, tout à fait. Je défends cet arbitraire, de même que les règles d'un sport sont arbitraires à un certain moment, et qu'il y a d'ailleurs un arbitre, de même qu'il y a de nombreuses règles que nous acceptons, et je trouve que la question de l'orthographe est minée, et je veux bien que nous y revenions d'ailleurs.
Arbitraire, dites-vous, et en même temps, l'accent circonflexe n'est pas arbitraire, puisqu'il est une trace de magistère, master, maître. Donc c'est le S qui se trouve répercuté, si j'ose dire, dans l'accent circonflexe, et l'orthographe est porteuse d'histoire. Alors pourquoi Michel Lussault souhaitait effacer cette trace historique du mot, puisque la simplification, j'en ai donné quelques exemples, n'est pas forcément au rendez-vous, et puisque même les élèves risquent d'être un peu désorientés dès lors que deux orthographes deviennent possibles.
Alors, sans reprendre immédiatement cette question des deux orthographes possibles, ce qui nous ramènerait à un vieil état de la langue, d'ailleurs, c'est-à-dire ce moment où l'orthographe n'était pas complètement fixée, pour le plus grand bonheur des prosateurs et des poètes, d'ailleurs, ça pourrait aussi être considéré comme quelque chose de tout à fait intéressant. Revenons à ce qui vient d'être dit et qui est effectivement très important. Je crois effectivement que l'enjeu, c'est bien celui de la trace dans une langue de son évolution historique. Et le problème n'est peut-être pas tant que disparaissent des éléments de cette histoire, que dans les graphies, que disparaisse toute possibilité de rappeler quelle fut cette histoire. C'est pour ça que dans les programmes du Conseil supérieur des programmes, en particulier pour le collège, un des objectifs qui a été mis en avant, c'est de donner la capacité aux élèves de maîtriser l'histoire des mots et l'histoire de la langue. Et de la maîtriser dans sa complexité, en évitant peut-être aussi, parfois, d'être trop schématique et rudimentaire, et en se méprenant, par exemple, sur des étymologies. Nénuphar, on revient à l'étymologie perse, en fait, du mot, qui n'est pas un mot grec. Le circonflexe, en France, marque la disparition d'un S, mais il marquait aussi l'origine grecque des mots, qui possédaient une voyelle longue. Mais tous les mots possédant une voyelle longue en grec n'ont pas eu d'accent circonflexe. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt d'engager un jeu de compréhension avec les élèves sur le fait qu'une langue est vivante, pour le meilleur et parfois pour le moins bon, mais elle est vivante. Ce qui poserait problème, et là-dessus je pense qu'on serait tous d'accord, c'est non pas l'idée qu'une langue puisse évoluer, mais l'idée qu'il faudrait faire disparaître de l'enseignement et du débat toute cette histoire de la langue et les choix qui ont pu être faits. Ce qui est gênant, peut-être, c'est qu'on n'explique pas les choix et qu'on n'explique pas la cohérence d'un certain type de choix.
Oui, c'est là que nous divergeons profondément parce que, effectivement, je pense qu'il faudrait inverser la question. La question, c'est pas tellement pourquoi toute simplification de l'orthographe provoque-t-elle un tir de barrage d'opposants. La question, c'est pourquoi, alors qu'on sait très bien que cette question provoque un tir de barrage, est-ce qu'on a besoin de la remettre au devant de la scène et est-ce qu'on a besoin de la soulever maintenant? Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément étonnant, je m'étonne beaucoup de ça. L'autre chose, c'est que je crois qu'il faut être raisonnable et il faut se placer sur ce qu'est un terrain de collège aujourd'hui. Un terrain de collège aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous avons des préoccupations d'adultes, voire même d'adultes tout à fait confirmés, et nous avons la possibilité de nous interroger sur ces choses-là. Je m'interroge, moi, justement, sur la raison pour laquelle des adultes, au lieu de permettre une véritable transmission, projettent finalement sur les enfants leurs propres préoccupations sans leur donner le temps d'apprendre véritablement l'orthographe. Ce que vous dites est très intéressant, à condition d'avoir déjà acquis un très grand savoir, un très grand bagage.
Alors, oui, nous parlerons du collège dans un instant, mais vous dites des adultes. Ce ne sont pas n'importe quels adultes. C'est le Conseil supérieur des programmes, c'est peut-être le ministère, mais beaucoup d'adultes ont très mal réagi à cette réforme, ou en tout cas à ces rectifications, puisque un sondage a dit même 80% des Français y étaient opposés. Et je crois que oignon, le mot oignon en lui-même est très symptomatique, parce que oignon, c'est le mot et la chose font partie de notre vie quotidienne. Et on se demande tout d'un coup au nom de quoi on lui enleverait son « i ». Les gens ont eu le sentiment, ou des gens, dont je suis, ont eu le sentiment qu'on touchait à un bien commun sans le leur avoir demandé. Donc, les éditorialistes dont je parlais tout à l'heure, où les humoristes professionnels ont dénoncé, si vous voulez, la réaction outragée des puristes, voire des purificateurs, qui ne veulent pas entendre parler d'une évolution de la langue. Alors qu'en l'occurrence, on a vu plutôt le peuple s'insurger contre une décision arbitraire venue d'en haut, une décision du château, qui, tout d'un coup, imposait, pour des raisons incompréhensibles, opaques, une nouvelle orthographe. Et je reste moi-même stupéfait de cette initiative. Je ne vois pas à quoi elle peut correspondre. Et il me semble qu'il n'appartient pas à une autorité extérieure, si vous voulez, de décider ce que doit être la langue ou non. Peut-être faut-il entériner l'usage. Et là, on le comprend quand on met un accent grave à événement. Mais pour oignon, on ne peut pas s'abriter derrière l'idée d'une modification de l'usage.
Alors, cette question Michel de l'usage est très intéressante parce que effectivement, on entend souvent qu'il faut entériner l'usage. Mais alors, si nous entérinions l'usage du français tel qu'il est orthographié dans la société au jour le jour, nous aurions une orthographe beaucoup plus simplifiée que celle dont nous parlons. Parce que la caractéristique, c'est que beaucoup de personnes qui se sont indignées de la disparition du « i » dans « oignon » ou de le changement de la graphie de nénuphar ne sont pas forcément tout à fait au clair avec la maîtrise de leur orthographe, puisqu'il se trouve que beaucoup de Français ont des relations difficiles à l'orthographe. Mais je trouve que la question que vous posez est une question importante. et peut-être d'ailleurs nous permet-elle aussi de décaler un peu le sujet. Parce que la question que je me pose, dans ce que vous dites de la réaction, de la décision prise au château, ce qui m'intéresse aussi, moi je ne suis pas comme ma collègue, je ne suis pas plus qu'elle spécialiste des questions de français, je suis géographe et je m'intéresse donc aux questions sociales. C'est pour ça que je vais me permettre de reprendre ce que vous dites sur ce point. Pourquoi cette réaction maintenant? Pourquoi pas en 2008, lorsque la même préconisation a été faite? Exactement la même. Elle était même, pour tout dire, beaucoup plus impérative que la formulation que le CSP a retenue. Pourquoi pas en 2008? Et pourquoi pas entre 1990 et 2008, puisque cette révision orthographique date de 1990, qu'elle avait été discutée entre le Conseil national de langue française et l'Académie française à l'époque, dans un pays où, par tradition, il a toujours existé des instances normatives en matière de définition de la borne orthographe et de son usage, notamment l'Académie à travers ses dictionnaires, mais pas exclusivement. Et ce que je crois, c'est que la réponse à cette question « pourquoi maintenant ?» renverrait peut-être plus, Alain Finkielkraut, à ce que vous venez de dire, plus qu'à au seul sujet de l'orthographe, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a une décision prise arbitrairement par quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Et ça nous renseigne peut-être sur un certain état de la société française, une certaine défiance, peut-être, d'une partie de la société française par rapport à ce que l'on estime être les élites qui décident, loin de toute préoccupation. Alors, je veux bien le comprendre, je veux bien l'entendre, et je le prends très au sérieux. Et en même temps, je me dis que notre travail est peut-être de reprendre le déroulement des faits, rappeler ce qui s'est passé depuis 1990 autour de cette question-là, pour montrer qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de volonté de nuire, il n'y a pas volonté de détruire la culture et la langue, que paradoxalement même, ceux qui ont promu cette orthographe révisée, on parlait de Bernard Cerchellini tout à l'heure, ont plus que d'autres, y compris d'autres commentateurs, le souci de défendre la langue française et de porter la langue française au plus haut comme langue de culture et comme langue véhiculaire parlée dans le monde entier aujourd'hui,
oui,
comme une langue importante.
Et vous voyez bien, et je m'adresse à l'un et à l'autre, Anne-Sophie Lautac et Michel Lussault, qu'il y a une différence, par exemple, entre la décision de Guizot de orthographier l'imparfait en « est » et non plus en « wa », puisque plus personne ne prononçait « wa » depuis longtemps, ou la décision même de mettre un accent grave à « événement », puisqu'on prononce ainsi, et la volonté d'écrire « combatif » avec deux « t », boursouflure aussi, je peux donner d'autres exemples, ou de souder un certain nombre de noms composés, parce que, comme d'ailleurs le remarque l'Académie française dans un communiqué du 11 février, ces rectifications n'ont pas reçu la sanction de l'usage. C'est ça la réaction. On se dit, mais à quoi bon? Pourquoi faire? Et là, j'en reviens à la question que vous posiez. L'enseignement de la langue, l'enseignement de l'orthographe est de plus en plus difficile aujourd'hui parce que c'est la connaissance même des structures de la langue et des règles élémentaires de la grammaire qui fait défaut à un nombre croissant d'élèves. Ce n'est pas le « i » de oignon. Anne-Sophie Lautac.
Je crois qu'il nous faut élargir un petit peu le débat parce que, effectivement, derrière cette question de l'orthographe, il y a un présupposé qui est le présupposé qu'il faut s'adapter à un public qui n'a plus la capacité d'apprendre. Or, justement, c'est ce présupposé contre lequel je m'inscris de manière tout à fait vigoureuse. Et qui se rapproche d'ailleurs du présupposé qui existe sur les classes de latin, sur les classes bilingues, et de beaucoup de présupposés de la réforme du collège en général, sur laquelle il y a eu aussi beaucoup de débats. Alors, je pense que ce raisonnement, tout raisonnement qui consiste à simplifier, est un raisonnement faux. Pourquoi ? Parce que ça consiste à penser que la réussite des plus faibles, on va recréer de l'égalité en enlevant la difficulté aux plus faibles. Or, si on prend l'exemple d'un élève de ZEP, pour parler, enfin de REP maintenant, ce sont des sigles assez épouvantables, mais on est obligé de les employer, donc de quartiers populaires défavorisés, pour faire très simple. simple. On s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout en lui enlevant la difficulté à cet élève qu'on l'aide. Au contraire, et j'en suis absolument persuadée, il faut absolument que l'école soit capable, quand je dis l'école, c'est de manière très générale, que l'école soit capable de recréer un désir. Et recréer un désir, c'est créer, cela peut paraître étrange, une émulation. Et quand je dis une émulation, celle-ci fonctionne sur le terrain. J'en ai des preuves quotidiennes. Et on se prive, en n'essayant pas de maintenir les difficultés, on se prive justement de restaurer, de réenchanter la classe. Et je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus. Je pense que ça, c'est profondément lié à d'autres crises, et notamment une crise du récit. Et je voudrais, si on a le temps, qu'on y revienne à ça. Il y a une crise du récit qui est profonde.
Qu'est-ce que vous appelez une crise du récit ?
Alors, ce que j'appelle une crise du récit, c'est que je crois qu'il y a une crise de la discursivité, effectivement, une crise qui consiste à atomiser les savoirs, que ça soit l'orthographe, que ça soit les mathématiques, que ça soit l'histoire et la géographie ou le français. Et je suis persuadée qu'il faut restaurer, au contraire, un récit discursif, compréhensible pour les élèves, et que cette atomisation est profondément néfaste, et que quand on parle d'ennui, une grande partie de l'ennui des élèves est liée à cette atomisation.
Michel Dussault.
Oui, en tout cas, permettez-moi de répondre à cette remarque que vous venez de faire. Le Conseil supérieur des programmes n'a jamais pensé que la révision orthographique ou les programmes qu'il propose devraient aller dans le sens que vous citez. C'est-à-dire, je pense que nous faisons même le pari contraire. C'est-à-dire que nous avons, à travers nos programmes de français, voulu rappeler l'importance fondamentale pour les élèves de conquérir peu à peu la maîtrise de la langue, et que cette maîtrise de la langue, elle passe notamment, mais pas exclusivement, par la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, et que ceci se constitue pendant les 9 années de la scolarité obligatoire, et même d'ailleurs commence pendant la scolarité à l'école maternelle, et que cet apprentissage est un apprentissage tout à fait essentiel, sans lequel rien n'est possible.
Alors là, justement, je voudrais citer François Bayrou. Il dit, dans un article publié par le Journal du Dimanche, « Ce n'est pas l'orthographe de Nénuphar qui est un problème au collège, c'est l'accord du sujet avec le verbe, au pluriel le S ou le X pour les noms et le NT pour les verbes, et la conjugaison simple. Non pas le recherché ou le complexe, mais l'élémentaire. » Et en effet, on est devant ce problème orthographique jusque sur les bancs de l'université. Mais vous dites, Michel Dussault, qu'il s'agit justement d'enseigner la grammaire au collège. Je n'en suis pas sûr, parce que dans les programmes pour les cycles 2, 3 et 4, il est parlé d'activités de manipulation des phrases, de tri, de classement des bouchons sur la catégorisation de faits de langue et sur le métalangage grammatical, après un temps significatif de familiarisation avec l'objet étudié. Il n'est jamais dit qu'on allait suivre des cours de grammaire. Et j'ai sous les yeux un livre publié de manière quasi dissidente par une femme qui a été professeure de français très longtemps dans un collège du Pré Saint-Gervais, Cécile Reverret. Elle a écrit ce manuel parce que nombreux, dit-elle, sont les jeunes maîtres, les jeunes professeurs qui lui ont fait part de leur difficulté à enseigner la grammaire. Et à ce moment-là, il y a un chapitre qui est consacré à l'analyse grammaticale, c'est-à-dire à la nature des mots, leur genre et leur nombre, la fonction qu'ils occupent dans une phrase donnée, et à l'analyse logique qui réside dans le découpage de la phrase, où commencent les propositions, etc. Donc tout cela, pourquoi cela ne figure-t-il plus textuellement dans l'enseignement du collège, puisque précisément la syntaxe et l'orthographe la plus élémentaire est aujourd'hui défaillante.
Alors,
Michel Dussault.
On peut tous converger vers l'idée qu'effectivement nos jeunes élèves ont aujourd'hui des problèmes à maîtriser le français. Je me souviens d'un de mes bons amis, François Bon, écrivain, qui organise beaucoup d'ateliers d'écriture dans les établissements, et me disant à l'issue de son atelier d'écriture, mais ces élèves sont dépossédés de la langue. Hein. Et donc je pense qu'il y a une sorte de prise de constat, une sorte de constat partagé à partir duquel il nous faut réagir. Cette dépossession, d'ailleurs, petite parenthèse, l'école n'est pas seule responsable. Il y aurait beaucoup à dire sur l'immersion, le bombardement permanent auquel nous sommes exposés via les médias d'information en continu, le bombardement d'un certain nombre d'usages de la langue qui sont, à mon sens, profondément destructeur d'une vraie capacité à maîtriser le langage. Donc ne chargeons
notamment
pas l'école.
Sur les textos, les choses comme ça.
Ne chargeons pas non plus l'école de toutes les responsabilités. Parce que il y a aussi un problème collectif et social de relation au langage, hein, qui n'est pas simplement lié à ce que l'école a produit. Mais lorsque vous regardez les programmes du Conseil supérieur, en fait, on propose pendant les 9 années de la scolarité obligatoire un apprentissage du français qui est centré sur 4 ou 5 blocs d'activités complémentaires. L'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de l'expression orale, parce que c'est très important d'apprendre aux jeunes à s'exprimer oralement. C'est quelque chose de tout à fait décisif et nous savons aujourd'hui que ça renforce leur capacité à maîtriser l'écrit. L'apprentissage de ce qu'on appelle l'étude de la langue, et cher Alain Finkielkraut, étude de la langue, la parenthèse, c'est grammaire, orthographe, lexique. Donc on ne peut pas être plus explicite. Et enfin, l'apprentissage de la culture littéraire. Donc la citation que vous avez donnée, c'est une citation qui est sortie du tableau proposé aux enseignants pour leur donner des exemples d'activités. Hein, et si l'on veut véritablement retrouver les intentions des programmes, il faut aller plutôt dans les feuilles pour les auditeurs qui s'appelle compétences travaillées. Et nous apercevons que cette volonté de véritablement stabiliser chez les élèves la connaissance du français dans toutes ses dimensions, sans aucunement céder à la facilité. Le français est une langue qui nécessite un véritable effort pour être maîtrisée. Et en même temps, nous rappelons en permanence que sans cette maîtrise du langage, rien n'est envisageable.
Alors, c'est là aussi que je diverge totalement de votre vision, monsieur. D'abord, je pense que, bien entendu, tout est sous-tendu par l'idée que l'enfant ne doit plus s'ennuyer. Hein, il y aurait un ennui.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
C'est parce que dit M. Méchanet,
c'est pas forcément vous, mais ce qui sous-tend, il y a quand même une logique de pacification sociale, une mission de pacification sociale dont l'éducation nationale est aujourd'hui excessivement chargée et qui fait que la pacification des classes est quelque chose qui est une véritable mission. Alors, pour ne pas s'ennuyer, effectivement, on simplifie, pour éviter que l'élève s'ennuie, on simplifie à l'excès les choses. Je vais en donner quelques exemples, mais surtout, je crois qu'on rentre vraiment ici dans une logique perverse de l'utopie, comme disait Martin Malia, qui est un historien de l'URSS. Et notamment, on rentre dans une logique perverse de l'utopie. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la réalité de la réforme des collèges, on s'aperçoit qu'il y a des choses quand même très gênantes. Alors, on peut parler des enseignements pratiques interdisciplinaires, si vous voulez bien, 2 minutes, parce que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais dans ces enseignements pratiques interdisciplinaires qui enlèvent donc...
Des horaires des disciplines.
Voilà, qui enlèvent des horaires des disciplines afin que 2 professeurs puissent pratiquer cet enseignement pratique interdisciplinaire sur un semestre. Vous pouvez avoir donc le choix, par exemple, de travailler sur la chanson engagée, ce qui a été un exemple qui a été donné dans les journées pédagogiques qui sont organisées d'ailleurs sur le temps de travail des professeurs sur leurs heures de cours, hein, pour leur expliquer comment il faut faire. Et donc la chanson engagée, Léo Ferré, Jean Ferrat et Maréchal Nous Voilà, par exemple, donc vont prendre 10 heures sur un semestre de chacune des disciplines, par exemple histoire et français. Je ne vois pas trop comment on enseigne le français dans ces conditions, sachant qu'il faut une production concrète à la fin de l'EPI. Ça s'appelle une production concrète, le terme même de production concrète mériterait d'être analysé. Et cette production concrète est enfin, ce qui est préconisé, c'est une vidéo ou un contenu de ce type. Donc ça, c'est un premier problème. Et je voulais juste dire autre chose, c'est que vous savez que ce qui est très important dans cette réforme, c'est le socle, hein, puisque et dans le socle, le français est intégré avec d'autres disciplines, hein, c'est-à-dire que il est intégré à d'autres langues, hein, avec les langues régionales, les langues vivantes et le langage du corps. Donc le français est intégré désormais dans un ensemble de préoccupations. Mais ça fait partie d'un des 8 blocs du socle, donc on peut s'inquiéter effectivement sur la place du français. Et puis je crois que le débat ne porte pas forcément sur des questions techniques. Le débat porte sur le fait que aujourd'hui effectivement, je crois qu'il y a une espèce de préoccupation sociale effectivement qui engage bien malgré probablement une partie de ceux qui font la réforme, une espèce de mépris qui est un mépris des élèves et un mépris des professeurs. Et je crois que quand on lit les blogs, quand on voit l'extrême mécontentement des professeurs aujourd'hui, on doit bien constater, et ça c'est lié aussi à la société civile, à la multitude qui s'exprime, à des gens qui n'ont plus envie d'être gouvernés en quelque sorte ainsi, on note un extrême mécontentement dont il faut tenir compte.
Michel Dussault,
oui,
j'ai une question à poser.
Je ne sais pas à qui s'adresse vos griefs, mais en tout cas pas au Conseil supérieur des programmes et pas à moi, ne serait-ce que parce que si quelqu'un m'a jamais entendu dire qu'il fallait proscrire l'effort, éviter l'ennui ou mépriser les professeurs, alors là je demande à être contredit. Par ailleurs, nous pensons au Conseil supérieur des programmes que le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, donc ce qui définit en gros la culture scolaire que doit maîtriser un élève lorsqu'il sort de la scolarité obligatoire, pour aller très vite. Ce socle n'est pas organisé en discipline, pas plus pour le français que pour le reste. Il est organisé en grands domaines de maîtrise et de savoir, et effectivement le premier de ces domaines, c'est les langages. Et le premier de ces domaines du langage, c'est le français, qui est justement placé en première ligne. Et c'est écrit clairement par le CSP. Alors, pardonnez-moi de vous le dire, votre lecture n'est pas bonne. Et c'est sans doute de ma faute, en tant que président de CSP, de ne pas avoir été assez clair, puisque nous sommes toujours un peu responsables des erreurs que peuvent faire les destinataires dans leur lecture. Mais nous mettons l'accent sur le français, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, sans cela, rien n'est possible. Et je précise une chose avant de vous laisser m'interrompre, ce qui est bien normal, puisque non, c'est votre émission,
vous m'interrogez.
Le deuxième domaine du socle fondamental s'appelle des méthodes et outils pour apprendre. Parce que nous estimons aussi qu'une des grandes fragilités des élèves d'aujourd'hui, c'est leur faiblesse dans la maîtrise des méthodes de travail. Et que cette question des méthodes, qui peut sembler un peu rasoir, est tout à fait essentielle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me permet de ne pas être complètement en accord avec vous sur la question des EPI. Parce que je pense qu'il y a un problème si l'on conçoit un EPI comme une soustraction. L'enseignement pratique interdisciplinaire, ça n'est peut-être pas de la discipline seule, mais c'est quand même de l'enseignement. Et c'est de l'enseignement où l'on fait passer des connaissances. Reprenons l'exemple de la chanson engagée. Ma foi, si l'on montre que Léo Ferré a utilisé, comme Jean Ferrat, des poèmes d'Aragon pour marquer sa vision du monde, après tout, nous ne sommes peut-être pas si loin de ce que le français peut apporter dans sa relation à la culture littéraire.
Alors, là quand même, sur les enseignements pratiques interdisciplinaires, je voudrais dire un mot à mon tour. J'ai lu dans Télérama un article très instructif et très inquiétant à la fois, sur un collège de Tours, le collège de Stalingrad. Il était fait état d'expérience, de pointe en cette matière. Deux exemples, un cours avec des professeurs de mathématiques et de français, je crois, autour de la mixité. Effectivement, il s'agit de produire une vidéo au bout du compte, d'abord un sondage et puis éventuellement une vidéo. Donc on agglutine les élèves autour d'écrans. Ce n'est plus une classe et un professeur qui parle devant une classe. Et autre exemple, l'exemple c'était professeur d'art plastique, de français et de gymnastique, je crois, et c'était hip-hop et art de la rue. Donc, on a quand même le sentiment que si l'enseignement des disciplines se réduit au profit quand même de l'idéologie du jour, parce que il y a aussi énormément de pays consacrés au développement durable, etc. Ça peut être légitimement un sujet d'inquiétude. Dès lors, précisément, que les choses élémentaires ne sont pas connues. Et curieusement, l'article de Télérama s'intitulait « La victoire de Stalingrad ». Et vous dites « La culture littéraire continue à avoir de l'importance ». En même temps, vous écrivez dans les programmes « La constitution d'une culture littéraire et artistique commune, faisant dialoguer les œuvres littéraires du patrimoine national, les productions contemporaines, les littératures francophones et les littératures de langues anciennes et de langues étrangères régionales et les autres productions artistiques, notamment les images fixes et mobile. C'est un des grands thèmes de l'enseignement du français aujourd'hui. Mais on a envie de dire, pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il s'agit de faire connaître les classiques aux élèves, parce que les classiques vont enrichir leur connaissance du monde, leur vocabulaire. Nous sommes sans un langage justement adéquat, nous sommes malentendants et malvoyants, les classiques peuvent nous aider à mieux entendre et à y voir plus clair, et c'est en effet le pari culturel de l'Europe, comme l'a écrit Rémy Brague, c'est que les textes anciens auront toujours quelque chose à nous dire. Là, de ce pari culturel, il ne reste rien, me semble-t-il, qu'une grande soupe où tout est mis sur le même plan. Alors d'un côté une soupe, et de l'autre côté des enseignements pratiques interdisciplinaires qui incarnent à mes yeux la dictature du présent, n'y a-t-il pas des raisons de s'inquiéter, Michel Dussault ?
Alors, il y a des raisons de s'inquiéter si effectivement vous le prenez comme ça, et je vais essayer de montrer qu'on peut le prendre autrement. D'abord, par rapport aux enseignements pratiques interdisciplinaires, qui, je le rappelle, ne sont pas une invention du Conseil supérieur des programmes, puisque c'est le ministère qui a fait la réforme des collèges, et pas nous. Hein. D'ailleurs, dans nos programmes, nous ne parlons pas vraiment de ces enseignements pratiques interdisciplinaires. Mais revenons à cela, puisque nous en parlons. Ce qui est très important pour un élève, c'est de pouvoir transférer un certain nombre de ses connaissances et de ses outils et méthodes maîtrisées dans d'autres champs d'activité que celui où il les a appris. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs ce que l'on fait lorsque l'on enseigne les sciences en permanence, hein, où l'on part d'une maîtrise abstraite du savoir et où on essaye de réactualiser ces savoirs à travers une maîtrise plus liée à l'observation, à l'expérience, aux tests, voire à l'expérimentation. On peut donc tout à fait aussi considérer que les enseignements pratiques interdisciplinaires sont liés à cette nécessité-là. Après tout, puisque vous aimez le football et la musique de Bach, si j'en crois votre générique, il est bien clair que on doit apprendre théoriquement un certain nombre de choses par rapport au football, y compris les règles, mais que la possibilité de réinvestir cela dans une activité pratique, voire de réinvestir cela en pratiquant un autre sport que le football où on pourra changer la manière de considérer ses appuis, n'est pas forcément une mauvaise chose. Et pour la musique, on sait bien l'importance qu'il faut donner à la pratique. Donc moi, je prendrai les enseignements pratiques interdisciplinaires, non pas comme, si vous voulez, une amputation, une mutilation, une soustraction, mais je les prendrai comme un pari. C'est-à-dire comme un pari de faire en sorte que, via ce type d'activité, les élèves puissent mieux maîtriser les savoirs qu'ils ont à maîtriser. Et par goût d'universitaire, je rajoute que voir des professeurs travailler entre eux n'est pas forcément une mauvaise chose. Et on peut faire aussi le pari que ce travail collectif sera un travail qui produira de la valeur ajoutée intellectuelle. Deuxième chose par rapport à ce que vous dites sur les classiques. Et là, il y a effectivement une vraie discussion et un vrai débat. Les classiques ne disparaissent pas. Bien sûr que toute culture a besoin de se référer à ces classiques. Un des paris qui est fait, et là nous pouvons avoir effectivement une divergence, je comprends qu'il y ait divergence d'opinion sur cela. Un des paris qui est fait, c'est que les élèves sont aujourd'hui immergés dans une pop culture qui est d'une puissance tout à fait inouï, que nous n'avions jamais rencontré jusque-là. Cette pop culture, il faut à la fois en faire prendre conscience aux élèves, la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire leur immersion culturelle de première intention, mais il faut aussi petit à petit leur apprendre à la mettre à distance. Et quand des professeurs travaillent par exemple sur des séries, y compris des séries qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir avec les classiques. Prenons la série célèbre aujourd'hui, Game of Thrones. Eh bien, on s'aperçoit assez facilement que cette série-là peut renvoyer à des questionnements sur les grands mythes, les grandes œuvres, les grandes productions classiques, et que d'ailleurs les scénaristes se sont inspirés de cela. De même que l'accès aux textes théâtraux peut passer par la médiation d'un film, d'un documentaire, d'une fiction. Après tout, un livre célèbre de la rentrée, Titus n'aimait pas Bérénice, est un livre de fiction contemporaine, mais qui s'appuie sur une méditation autour de la création par Racine de Bérénice pour essayer de rendre accessible ce moment racinien particulier qui a été celui de la création des grandes tragédies. Donc je pense que cet aller-retour entre le présent et le classique ou l'antiquité est un aller-retour tout à fait stimulant et peut être considéré comme une possibilité d'enseignement tout à fait intéressante.
Anne-Sophie Le Tac.
Plusieurs points. Je crois que vous vivez dans un monde parfait. Et en fait, c'est ça la question. Vous avez tout à fait raison, dans un monde parfait. Dans la réalité, bon, alors d'abord, il y a une caractéristique de cette réforme, c'est qu'effectivement, tout le monde dit, c'est pas nous. Hein, parce que ça, sur le terrain, effectivement, quand il y a des journées, effectivement, les inspecteurs disent, mais c'est pas nous qui avons fait la réforme, etc. Donc il y a une espèce de gêne totalement partagée. Les professeurs, eux, sont partagés entre le rire, la colère et l'hébétude, hein, pour la plupart. Donc ça me permet de répondre à quelque chose que vous venez de dire. D'abord, est-ce que vous pensez vraiment que les professeurs ne travaillent pas entre eux ? Ils travaillent entre eux depuis fort longtemps. Et non seulement ça, mais il existait déjà des itinéraires de découverte qui ont été plus ou moins abandonnés en race campagne. La place des EPI, finalement, ne change pas. Change parce qu'elle est beaucoup plus prégnante et que finalement, elle est beaucoup plus contraignante pour les professeurs. Et j'allais vous dire, si ce sont des heures disciplinaires, à quoi ça sert ? À quoi sert si on fait une discipline, de faire des EPI. L'autre chose, c'est qu'il me semble qu'en réalité, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où on atomise le savoir et où, par exemple, lorsque on traite un thème comme en EPI, histoire, technologie, a été proposé, par exemple, un mur coopératif. Je ne vois pas ce qu'un mur coopératif va apporter au savoir de l'élève en difficulté en particulier. On peut songer, qu'est-ce qu'on fera un porte-clés mérovingien éventuellement. Enfin, bon, on arrive à des choses qui sont littéralement absurdes.
Mais pourquoi dites-vous, Anne-Sophie Le Tac, que Michel Lussault vit dans un monde parfait ?
Parce qu'il a raison.
Il considère qu'il y a des imperfections, qu'il faut prendre plutôt le monde comme il est, et le monde comme il est envahi par ce qu'il vient d'appeler cette pop culture. Alors, ne faisons pas comme si nous vivions dans un monde idéal. Et commençons par là. Personnellement, j'ai des doutes. Je pense que il vaut mieux aller directement à Bérénice et lire ensuite éventuellement le très beau livre de Nathalie Azoulay. Mais ce serait plutôt ça qu'il dit. Où est la perfection ?
Non. Alors, quand je dis cela, c'est bien sûr, c'est tout à fait. Ça veut dire que son projet est un projet qui est tout à fait louable et que je trouve tout à fait intéressant. Sauf qu'une vraie classe, de vrais collèges, dans trois quarts, dans les 9/10 des collèges, ce n'est pas du tout ça. Une vraie classe de collège, c'est une classe où les enfants ont des très grandes difficultés syntaxiques, où ils ont des difficultés à apprendre et où justement, je crois qu'il faut restaurer un apprentissage beaucoup plus simple. Il me semble que, en fait, et je voudrais en revenir à ça parce que ça me semble très important. En fait, il me semble que la génération qui décide aujourd'hui, mais qui a décidé hier aussi, est une génération qui fait comme si les jeunes savaient déjà ce qu'ils savent. Voilà. Et comme si finalement l'enseignement n'avait pas d'importance, mais si, puisque finalement on peut en arriver directement à faire des ponts. Vous avez décrit très bien un enseignement qui serait passionnant dans un collège, qui sera d'ailleurs passionnant dans un collège où les enfants sont bien outillés. Alors la dernière chose que je voulais dire, excusez-moi, c'est qu'il me semble aussi que la réforme est permanente et que la société civile française en a assez de la réforme. Alors, tous les moyens qui devraient être mis au service du fond, de l'enrichissement des connaissances et du savoir-faire, sont mis dans la mise en œuvre de la réforme avec un succès extrêmement mitigé, puisqu'on voit que les professeurs sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement en colère. Et on en arrive à un formalisme absolu qui ne se pose finalement plus la question du fond, mais justement de comment on va mettre en œuvre les nouvelles procédures. Et ça, je crois que c'est une question qui est très importante, parce que c'est pas seulement une question de mobilisation intellectuelle, c'est aussi une question de mobilisation de ressources financières et d'absence de formation continue qui sert finalement à simplement apprendre les mécanismes de la réforme. Et je voudrais aussi poser un problème, qui est le problème des nouveaux manuels, qui coûtent quand même 160 millions d'euros, et on a les inspecteurs se targuent du fait que ça a été débloqué par le ministère. Et alors que la plupart des collèges n'ont pas les moyens de renouveler les manuels anciens, on se demande vraiment ce que c'est que cette gabegie, à quoi ça sert, d'autant plus que beaucoup d'inspecteurs sont aussi des directeurs de collection, et qu'on finit vraiment par se demander, même sans esprit trop critique, pourquoi ces manuels sont renouvelés aussi souvent.
Oui, d'abord, je ne vis pas dans un monde idéal, mais dans un monde très prosaïque, au contraire. C'est-à-dire, je fais le constat que le monde est tel qu'il est et que parfois il est incommode. Par ailleurs, je me souviens avoir enseigné en collège dans les années 80. Je peux vous garantir que dans les années 80, le collège, ça n'était déjà pas complètement simple. Et que déjà se posait un certain nombre de problèmes. Et je rencontre souvent des professeurs et des élèves en situation. Et je sais bien, je ne méconnais pas la difficulté de l'exercice. Deuxième chose. Par rapport aux programmes précédents de 2008, les programmes du Conseil supérieur des programmes sont plutôt beaucoup plus centrés sur les choses simples et élémentaires. C'est peut-être encore trop lourd, c'est peut-être encore trop jargonnant parfois, mais nous avons recentré cela. Par ailleurs aussi, l'élève de collège dont je parle, c'est un élève qui devra arriver dans ce collège après avoir suivi l'ensemble de la scolarité obligatoire. Les programmes du Conseil supérieur sont les programmes qui commencent en cours préparatoires et qui vont jusqu'à la troisième. Donc il faut laisser évidemment le temps à ces programmes de s'imposer. Ensuite, il est bien clair que l'enjeu de la scolarité obligatoire, c'est de faire en sorte que les élèves soient capables de penser par eux-mêmes, que c'est quelque chose de tout à fait décisif et que c'est un combat collectif, que c'est un grand combat social et culturel et que ce combat-là ne se gagnera pas en postulant qu'il n'y a aucun effort à faire, ni en postulant qu'il y aurait une martingale qu'on aurait à trouver dans l'école de l'ancien temps, parce que nous savons que ça n'est pas vrai. C'est un projet collectif et je pense que ce projet mérite mieux qu'un certain nombre de débats que nous avons connus dans les années dernières et que ce projet mériterait que nous soyons capables d'avoir une vraie discussion, un vrai débat public à l'échelle de la société française tout entière, parce que c'est sans doute un des fronts pionniers, une des frontières que nous avons collectivement à franchir.
Merci beaucoup pour cette conclusion, Michel Lussault. Alors, je citerai, à l'appui de ce que vous avez dit, penser par soi-même, un grand humaniste du XVIe siècle, Ange Policien, à l'école de Cicéron, on apprend non pas à être Cicéron, mais à être soi-même. Donc, il faut peut-être en passer par les œuvres pour justement devenir soi. Merci donc Michel Lussault, merci Anne-Sophie Le Tac. Les références bibliographiques, vous les trouverez sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable mille et une nuits. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le nouveau visage de l'Europe centrale ». Mes invités seront Jacques Rupnik et Alexander Smollard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. L'apocalypse au XVIe siècle, des feux contemporains avec Denis Crouzet.